Bonjour cher Emmanuel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Expliquez-moi Derrida, c'est notre mot d'ordre cette semaine. Expliquer Derrida, c'est aussi apprendre à l'aimer, sans forcément le comprendre. D'autant que les philosophes, c'est comme les collègues de bureau, on ne les connaît jamais aussi bien qu'on le croit. Tenez, le 2 janvier 1983, Derrida rentre de Prague et se fait arrêter pour trafic de drogue. C'est un journaliste de France Inter qui le dit.
Jacques Derrida, le philosophe français, arrêté à Prague la semaine dernière pour détention de drogue, est rentré libre à Paris ce matin. Son témoignage, recueilli il y a un quart d'heure à peine par Ulysse Gosset, à la gare de l'Est où il vient d'arriver.
J'ai d'abord été suivi et surveillé pendant tout le temps de mon séjour à Prague. À la fin de quoi, à l'aéroport, au moment du retour, les douaniers ont fait semblant de découvrir dans ma valise des sachets dont ils ont prétendu que c'était de la drogue. J'ai été arrêté, inculpé, après un interrogatoire de 6 heures, puis emprisonné dans des conditions, je veux dire, très brutales, sinon exceptionnelles. Il s'agit d'une machination politico-policière à la fois sinistre et ridicule, destinée à empêcher ou à intimider tous ceux qui, intellectuels ou non, souhaitent se rendre en Tchécoslovaquie pour témoigner de leur solidarité avec ceux qui là-bas, chartistes ou non, luttent pour le respect des droits de l'homme, contre les violations, contre toute violation des droits de l'homme. I'm in love with the coco.
Bonjour Jérôme Labre.
Bonjour.
Bienvenue sur le chemin de la philosophie.
Merci.
Qui voulait nuire au philosophe de la déconstruction au point de cacher de la cocaïne dans la doublure de sa valise?
Ah bien, Derrida faisait énormément de voyages. Le déplacement était essentiel pour lui. La philosophie était internationale. Et voilà, on était à une époque où les déplacements à l'Est étaient extrêmement surveillés. Je pense que Derrida s'attendait pas du tout à cette sorte de stratagème très classique, hein, qui consiste à mettre de la drogue dans les valises pour ensuite accuser la personne de transporter cette drogue. Je pense que ce qui l'a gêné, c'est pas tellement qu'on doute de son identité, puisqu'à la rigueur, c'est le philosophe qui, par excellence, critique l'identité, mais en revanche être accusé, c'est différent, parce que là pour le coup c'est vraiment une autre identité qui est affirmée d'une manière purement négative. Et on peut dire que Derrida, c'est aussi celui qui est le plus rebelle comme ça aux accusations définitives. On pourrait dire la déconstruction, c'est aussi un petit peu ça, c'est aussi un mode de défense des affirmations radicales et des culpabilités radicales au nom de la responsabilité.
Vous êtes professeur de Cagnes, membre du Collège international de philosophie Jérôme Lèbre, et vous avez écrit « Derrida, la justice sans condition », un livre publié chez Michalon. Et vous faites partie de ces philosophes qui pensaient que le travail de Derrida a une dimension politique très forte, non seulement dans les textes, mais aussi dans ses actions. Et le fait qu'il soit arrêté alors qu'il revenait de Prague montre qu'il allait sur le terrain quand même.
Oui, oui, oui. Disons qu'on, traditionnellement, mais je dirais de moins en moins, tellement il y a eu de démentis, on opposait un Derrida qui s'était pas intéressé de la politique pendant une longue partie de sa carrière, qui était un philosophe de l'écriture, des explications de texte, qui à un moment donné, comme par remords, hein, se serait engagé, souvent à contre-temps, souvent d'une manière encore purement intellectuelle et abstraite. Alors que, comme il l'a dit lui-même, on peut aussi ne pas le croire, mais quand on peut le voir dans l'ensemble de ses textes et de ce qu'il a fait concrètement, sachant que l'écriture aussi a aussi sa part de concret, on s'aperçoit que dès le début, ce qu'il a visé, c'est une critique de la force. De la force, parce qu'en fait, la justice a besoin d'une certaine force, il faut aussi une force de police, etc., pour que la justice puisse s'appliquer, il y a un pouvoir judiciaire, Mais en même temps, la justice en tant que telle, c'est le contraire de la force. Et alors, avant même qu'il parle de justice, Derrida disait qu'il y a comme ça une différence entre la force et le sens. Que le sens, par définition, y compris le sens d'un texte, c'est quelque chose qui ne peut pas s'imposer. Et que la force en tant que telle n'a pas de sens. Une force s'applique, mais ne comporte pas en elle-même sa propre justification. Et cette critique de la force est devenue critique du pouvoir, de la violence, mais voilà, elle l'a toujours été, parce que l'écriture aussi peut être violente, Derrida l'a dit, ça peut être également violent, y compris de la part des ethnologues, d'estimer qu'il y a des peuples qui sont radicalement sans écriture, ce que Derrida ne pensait pas. Donc en fait, cette question-là, pouvoir, violence, monopolisation du pouvoir par les institutions, question de l'institution, ça a toujours été au centre de la problématique de Derrida.
Écrire sur les questions de violence, contester les formes d'oppression et réfléchir sur la justice est une chose. S'engager concrètement, aller dans la rue en est une autre. On fait souvent aux philosophes dits politiques, ce que n'est pas Derrida, même s'il y a une dimension politique dans son travail. On le caractérise rarement de philosophe politique. On en fait souvent l'objection de se contenter d'écrire des livres, de ne pas descendre dans la rue. Écoutez comment Derrida répond à cette objection. C'était en 1998 dans l'émission À Voix Nue sur France Culture.
Quand on s'engage politiquement, qu'on soit ou non un intellectuel, il est impossible de se satisfaire de ce qu'on fait et il y a toujours encore autre chose et plus à faire. Donc, de toute façon, écrire des textes pour répondre à ces urgences politiques, ça n'est de toute façon jamais assez. Mais il n'y a pas d'action politique, quelle qu'elle soit, qui ne passe par des discours et des textes. Évidemment, il faut aussi aller dehors, quelquefois dans la rue, il m'est arrivé de le faire, point assez, je le conseille, il faut aussi aller dans la rue, il faut le faire... en y engageant son corps, sa voix, ses pieds, ses mains. Mais il serait facile de montrer que jamais on ne le fait sans discours organisé, donc sans texte. Donc le fait que, dans mon modeste cas, cela soit souvent passé par des écrits, marque à la fois l'insuffisance dont je parlais tout à l'heure, mais aussi une nécessité de penser la chose politique.
Il nous manque quelque chose, Jérôme Lèbre, là quand je dis nous, c'est-à-dire nous qui écoutons Derrida depuis lundi dernier, pour comprendre comment celui-ci va s'engager, y compris dans son travail. Nous avons parlé lundi dernier de son parcours à la fois biographique et intellectuel, hier de son succès aux États-Unis, on a beaucoup parlé du terme de déconstruction, et justement, la déconstruction est quand même ce qui se situe à côté de l'évidence, qui essaye d'aller contre toute forme de force du texte, de hiérarchie au sein du texte. Ce retrait, cette façon de naviguer entre les mondes qui caractérise Derrida, comment sont-ils compatibles avec la notion même d'engagement ?
Je crois que on peut répondre en partie avec le document là que l'on vient d'entendre, qui me semble très clair, mais qui, au moment où Derrida dit « bon, il n'y a pas d'action politique sans langage », on peut dire qu'il y aurait une action sans langage. Les actions sans langage sont les actions de pure violence. Là, elle se passe intégralement de langage. Et justement, le propre de l'action politique, c'est qu'elle s'accompagne nécessairement, au moins, d'un essai de justification. Alors, qu'est-ce que fait le philosophe ? Eh bien, il s'interroge sur le langage qui est utilisé pour agir. Et puis lui-même fournit une terminologie. Mmh. Et là, il y a une vraie activité de ce point de vue-là, je dirais, de soutien philosophique à l'action dans la manière de fournir des concepts.
Ah bah ça, je vous le confirme, il suffit d'avoir entre les mains, et je vous conseille d'ailleurs la lecture du vocabulaire de Derrida, qu'on trouve aux éditions Ellipse, hein, par Charles Ramon, qui sera là demain, pour comprendre qu'en fait, un mot sur deux qu'on y trouve a été inventé par Derrida. Donc pour vous, ça c'est un signe d'engagement politique que de réinventer un vocabulaire philosophique ?
Ah, c'est indispensable. C'est ce qu'on fait, bon, alors, quelquefois aux limites de la philosophie, mais si vous prenez Marx, par exemple, il a fourni des concepts qui étaient opératoires. Et le but de Derrida, c'est justement que ces concepts également soient opératoires. Si l'on prend par exemple le domaine du droit, bon, on a l'impression que l'action de droit par excellence consiste ou à le voter ou à l'appliquer. La grande question de Derrida, c'est quand on applique le droit, est-ce qu'en même temps on est juste ? Question que peut pas manquer de se poser le juge. Mais c'est vrai que quand Derrida lui-même a dit, ben finalement il y a une différence comme ça entre droit et justice, ils s'impliquent réciproquement, mais en même temps ils peuvent pas s'identifier, et qu'il a mis dans cette impossibilité d'identifier tout le poids de ce qu'il avait nommé déconstruction, c'est-à-dire qu'à chaque fois en fait qu'on essaie d'identifier quelque chose ou de forger une opposition un petit peu rigide, on s'aperçoit que les choses s'entremêlent et en même temps s'écartent. Elles peuvent pas ni fusionner ni s'opposer complètement. Bon, voilà. Quand il a utilisé ça pour dire que droit et justice ne pouvaient pas absolument coïncider, il a apporté beaucoup de choses. Et d'ailleurs, il a beaucoup intéressé les juristes. C'est une de ces affirmations qui ont été reprises à l'extérieur. Parce que bon, alors, vous dites retrait. Alors, c'est vrai, c'est le retrait du philosophe. Mais c'est tous les philosophes, en effet, ont besoin de toute façon de cette forme de retrait ou de recul ou de...
Ne serait-ce que pour écrire.
Ou de contre-temps, exactement. Voilà. Mais ce qui est étonnant aussi, c'est des processus de diffusion, en particulier, je dirais à propos de Derrida, mais ce serait pas d'autres philosophes, mais qui étaient quasiment incontrôlables. C'est très étonnant. Par exemple, ce terme de déconstruction, qui à l'origine était juste une manière de traduire un terme allemand chez Heidegger, destruction. Bon, la manière de traduire Heidegger, en général, ça concerne pas grand monde. Bon, et voilà, et ce terme a eu un tel succès qu'on l'a entendu sous toutes ses formes. Je me souviens de Nicolas Sarkozy parler à un moment de déconstruction. Je sais plus exactement dans quel contexte ni avec quelle profondeur, mais il en parle aussi. Bref. Et c'est ça l'action du philosophe, c'est que son langage se diffuse. Et là, de ce point de vue-là, on est déjà dans l'action. Alors après, ce qu'il peut faire, ce qui était d'être ce que pouvait dire Socrate contre l'écriture, c'est-à-dire à partir du moment où le livre part, son auteur n'est plus là pour le défendre, donc il faudra en rester à la parole. Et Derrida prend, comme Platon d'ailleurs, le parti de l'écriture. C'est vrai qu'à partir du moment où on écrit, on peut être lu d'une manière idolâtre ou d'une manière critique, mais aussi avec quantité de contresens. Mais voilà, c'est le risque à prendre, c'est la responsabilité qui est là et que l'on prend, et qui, tant qu'on est vivant, fait que, pour la part de Derrida, on peut toujours essayer aussi de rattraper les choses autant que possible. Ou alors, quand c'est pas Derrida, c'est d'autres philosophes. Mais c'est ça la fonction des philosophes. D'un côté, d'aider au façonnement du langage, pas seul d'ailleurs, hein, avec un petit peu tout le monde, mais à leur manière. Et puis, après, voilà, de nuancer, critiquer les contresens, etc.
D'autant que pour Derrida, le constat qu'il fait du monde dans lequel il vit est plutôt sombre. Il propose un tableau sombre du monde qui l'entoure lorsqu'il décide de décrire celui-ci, notamment dans Spectre de Marx, le texte qui date de 1993, donc plutôt tardif. Hein. Je rappelle qu'il est né en 1930, qu'il a déjà beaucoup écrit avant cette date-là et qu'il commence à s'intéresser à Marx 4 ans après la chute du mur de Berlin, ce qui est très étonnant, un moment où finalement c'est plus vraiment de Marx dont on s'occupe à ce moment-là. Écoutez ce texte interprété par le comédien Yvan Moran, donc de Derrida, dans lequel il semble dresser un diagnostic plutôt noir et qui justifie sans doute, a fortiori, hein, le rôle même du philosophe. Puisque le monde va mal, il est de notre devoir que de le décrire et d'essayer de le nommer. Écoutez.
The time is out of joint. Le monde va mal. Il est usé, mais son usure ne compte plus. Vieillesse ou jeunesse, on ne compte plus avec elle. Le monde a plus d'un âge. La mesure de la mesure nous manque. De l'usure, on ne rend plus compte, on ne s'en rend plus compte, comme d'un seul âge dans le progrès d'une histoire. Ni maturation, ni crise, ni même agonie. Autre chose. Ce qui arrive, arrive à l'âge même, pour porter un coup à l'ordre téléologique de l'histoire. Ce qui vient, ou paraît l'intempestif, arrive au temps, mais cela n'arrive pas à temps, contre temps. The time is out of joint. Parole théâtrale, parole de Hamlet devant le théâtre du monde, de l'histoire et de la politique. L'époque est hors de ses gonds. Tout, à commencer par le temps, paraît déréglé, injuste ou désajusté. Le monde va très mal. Il s'use à mesure qu'il prend de l'âge, comme dit aussi le peintre à l'ouverture de Timon d'Athènes, la pièce de Marx, n'est-ce pas ? Car c'est une parole de peintre cette fois, comme s'il parlait d'un spectacle ou devant un tableau. How goes the world ? It wears, sir, as it grows. Dans la traduction de François Victor Hugo, le poète, il y a longtemps que je ne vous ai vu. Comment va le monde? Le peintre, il s'use, monsieur, à mesure qu'il croît en âge. Cette usure dans l'expansion, dans la croissance même, c'est-à-dire dans la mondialisation du monde, ce n'est pas le déroulement d'un processus normal, normatif ou norme. Ce n'est pas une phase de développement, une crise de plus, une crise de croissance, puisque la croissance est le mal. It wears, sir, as it grows. Ce n'est plus une fin des idéologies, une dernière crise du marxisme ou une nouvelle crise du capitalisme. Le monde va mal. Le tableau est sombre. On dirait presque noir.
Moi, l'idée de la fin de l'histoire, ce n'est pas une chose choquante parce que le philosophe Hegel a dit que l'histoire est finie avec la Révolution française. Il a raison dans une certaine manière parce que les principes d'égalité et de la liberté ont été établis pendant la Révolution française, pendant la Révolution américaine. Et nous n'avons pas modifié ces principes. Il y a un consensus parmi beaucoup de pays sur la légitimité de la démocratie libérale dans les pays de l'Est, de l'Europe de l'Est, dans l'ancienne Union soviétique, même en Chine. Maintenant, il n'y a pas d'alternative idéologique sauf l'islam intégriste.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, la voix de Fukuyama sur la fin de l'histoire. C'était en 1992 et il énonçait que ce que lui appelle la fin de l'histoire avait sans doute lieu et que la seule alternative à la démocratie libérale, eh bien, c'est sans doute l'islam intégriste, dit-il, ce qui est assez étonnant. C'était donc en 1992. C'est à lui, à ce genre de discours sur la fin de l'histoire, Jérôme Lèbre, que Derrida s'adresse lorsque dans Spectre de Marx, dont on a entendu un extrait, il insiste sur le côté très très sombre du monde dans lequel nous vivons.
Oui, c'est-à-dire que Derrida refait ce constat finalement qu'il y a eu d'une certaine manière échec d'un certain communisme à l'Est, mais qu'il y a, et c'était déjà évident, et ça l'est encore, un certain échec du projet même de cette démocratie libérale qui, dans les termes mêmes, est censée apporter à la fois à tous la liberté et une part de pouvoir et de participation à la politique. Sans compter qu'elle promet aussi, par définition, avec la liberté, l'égalité. Et le constat que fait dans cette peinture Derrida, c'est que ce qui reste dominant, c'est l'injustice, le chômage, l'exclusion, la guerre économique. Bon, le libéralisme au sens du capitalisme, sachant que l'application directe, mais aussi transformée hein, du marxisme par Lénine, Staline, par les systèmes de l'Est, c'est-à-dire un pouvoir qui prétend aller vers le communisme tout en imposant une autorité très forte et quantité de stades préliminaires qui sont négatives. Bon, tout ça s'est écroulé, donc ça nous laisse un petit peu sans espérance. Le point de vue de Fukuyama, c'est la fin de la politique, la démocratie libérale, c'est sans doute pas parfait, mais il n'y a pas d'alternative possible. Pour Derrida, l'alternative, elle est en quelque sorte partout, hein, elle est même inscrite dans ces termes, entre démocratie et liberté, parce que la liberté, Est-ce que c'est celle des individus? Est-ce que c'est celle d'une communauté? La démocratie, comment la concevoir? Est-ce que c'est simplement la majorité au détriment d'une minorité? Est-ce qu'au contraire, c'est le droit des minorités, le droit des singuliers, etc., etc. Donc en fait, tous les termes sont en eux-mêmes pleins de tensions. Et ces tensions, elles s'expriment dans le monde et globalement d'une manière négative quand on fait la peinture immédiate du monde. C'est-à-dire qu'on voit les choses se confronter et se contredire les unes les autres. Hein, les différentes conceptions de la justice, le désir d'accomplissement individuel, la nécessité de maintenir les nations, le fait que trop maintenir les nations mène au nationalisme, le fait qu'il faut un internationalisme mais que le droit international reste impuissant ou qu'il est au contraire lui-même dirigé par des grandes puissances, etc., etc. Bon. Et donc on a l'impression que tous ces éléments comme ça du politique, qui si on les prenait individuellement pourraient être positifs, mais qui dans leur confrontation dans le monde s'opposent, finalement se détruisent. Mais ce que dit Derrida, c'est qu'ils se détruisent pas, en fait. Ils s'usent au contact les uns des autres. C'est-à-dire que ce qui fait le propre du monde, c'est qu'il est pas harmonieux. C'est qu'il est pris en permanence dans ses dissensions, ses conflits. Et c'est ça qui use le monde et qui, en quelque sorte, l'a toujours usé. C'est pour ça qu'il peut citer Marx comme il peut citer Shakespeare, parce que Marx lui-même citait Shakespeare.
Oui, Hamlet, the time is out of joint. Voilà. Le temps sort de ses gonds, ce qui traduit cette notion de désarticulation du monde.
Voilà, désarticulation du monde qui, quelque chose arrive au temps, dit Derrida, ce qui est le cas dans Hamlet, c'est le sujet de la pièce où Hamlet, il doit obéir à cette injonction paternelle de venger son père, mais en même temps, il n'y arrive pas, c'est impossible, et le temps passe, et en fait, c'est le même constat qu'on peut faire aujourd'hui du comment agir face à ces conflits, ces incompatibilités, cette usure du monde. Et l'idée de Derrida, c'est que dans la mesure même où le monde est mal agencé, comme une sorte de puzzle avec des pièces qui ne pourraient pas s'ajuster les unes avec les autres, ça laisse un écart qui est la possibilité de l'action.
Mais la référence à Hamlet montre bien que le portrait que Derrida propose n'a rien de spécifiquement contemporain. Dans quelle mesure est-ce que c'est pas le résultat d'une forme de mélancolie constitutive qui fait qu'à chaque époque, depuis le début de l'humanité, on a pu se sentir perdu dans un monde qui nous dépassait, qui ne faisait plus sens?
Oui, c'est vrai, chaque époque, je pense pas qu'il y ait une époque, justement, où on a pu dire que le monde allait bien.
Voilà, le pessimisme de Derrida, en ce sens, c'est assez conventionnel, presque.
Oui, mais par contre, c'est important de dire que, justement, le monde est toujours allé aussi mal, parce que sinon, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il faudrait regretter une période antérieure.
Donc, mieux vaut dire que ça n'a jamais été mieux avant, comme ça, il n'y a aucun espoir, ni même rétrospectif, et on peut ensuite peut-être s'en sortir, parce qu'il faut quand même le dire que, par ailleurs, Derrida s'oppose à un discours qui serait absolument apocalyptique. Il ne pense pas que la fin du monde soit pour demain.
Voilà, alors il n'y a pas de monde juste, il n'y a pas de monde qui était plus juste dans le passé. Il n'y a rien à regretter, si vous voulez.
Il n'y a pas d'âge d'or.
Et disons que les pires périodes dans l'histoire ont été celles où justement un État ou un empire a voulu croire que justement il avait réalisé la justice. Le pire, c'est la communauté qui se prétend dans la vérité, dans la justice, dans la liberté. Bon, ça donne ni plus ni moins que le totalitarisme. Et donc, en fait, disons qu'à toutes les époques, la liberté, y compris la liberté de penser, c'est toujours logé dans les incompatibilités du monde. C'est parce que le monde ne s'ajuste pas qu'il reste une forme d'espoir. Et de ce point de vue-là, c'est pas la peine d'imaginer non plus le pire. Parce que le pire, ce serait de croire que justement, parce que les choses sont disjointes, ne collent pas les unes avec les autres, ça mène à une sorte de destruction totale. Parce qu'il y a du lien en même temps. Il y a toujours du lien. Il y a du lien qui fait que, effectivement, la démocratie, ça existe comme exigence incomplète, mais elle existe. Les hommes arrivent à vivre ensemble, mal justement, le monde va mal, mais ils y arrivent d'une certaine manière. Donc il y a aussi en permanence du lien. Et donc Derrida se refuse à penser que la seule chose que l'on ait à prévoir, c'est une catastrophe radicale. Et alors on lui a reproché quelquefois son ton apocalyptique, justement en raison aussi de ce tableau sombre qu'il fait du présent. Et ce qu'il dit, c'est que C'est un ton d'époque. Hein. On parle souvent de fin des idéologies, fin de la lutte des classes, mais aussi fin du communisme, fin de ci, fin de ça, etc. Et ce langage de la fin et de la limite est absolument essentiel, mais la fin n'est jamais la fin de tout. Il n'y a pas de fin des fins. Mmh. Et donc, on ne peut pas prévoir la catastrophe. Il faut juste se loger comme ça dans ces interstices du monde, dans la liberté que nous laisse le fait que justement ça, les choses sont incompatibles. Il faut se loger dans ce monde-là pour penser, agir, prévoir aussi, mais pas forcément prévoir le pire.
Vous dites que pour Derrida, il y a du lien, que dans la démocratie, malgré tout, malgré ses imperfections, malgré son libéralisme sans doute, l'avantage est qu'il y a quand même un lien qui se tisse. De quelle nature est ce lien pour Derrida? C'est un terme très vague.
Oui, c'est vrai, c'est un terme bon, qu'on emploie beaucoup, faire lien, ouais. Faire du lien. Bon, mais c'est vrai qu'il est extrêmement vague. Disons que le principe, l'idée de Derrida, c'est que une liaison, c'est en soi-même une sorte d'aporie, parce que quand on serre trop, ça fait un nœud qui fait que plus rien ne se passe et que plus rien ne bouge. Quand on desserre trop, eh bien, ça donne la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de tension. Parce que le ton, y compris en ton apocalyptique, le ton, le tonus, le tonique, c'est toujours de l'ordre de la tension ou du lien. Donc, il faudrait faire en sorte que les liens soient là sans être trop serrés. Et après, ce lien, il faut à chaque fois le lire d'une manière singulière. Hein. Ça peut être l'amitié, qui a ses propres paradoxes, c'est-à-dire que combien il faut avoir d'amis, hein. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on a un seul véritable ami? Mais alors le risque, dit Derrida, c'est que deux amis comme ça, qui se prennent comme l'incarnation même de l'amitié, ont tendance à se considérer comme supérieurs au reste de l'humanité. Donc ce lien-là, il est aristocratique, il n'est même pas conforme avec la démocratie. Est-ce qu'on peut avoir des milliers d'amis? Tous ceux qui disent qu'ils ont des milliers d'amis, en fait, n'ont pas d'amis, parce que ce ne sont pas de véritables amis. Donc, voilà, il faut faire du lien, mais d'une manière multiple, pas trop serré, pas trop desserré non plus. Et c'est le problème de la démocratie, ça. D'arriver à faire en sorte qu'on arrive à vivre ensemble sous la forme d'une communauté, en sachant que cette communauté est trop petite. Elle se referme sur elle-même, elle devient familiale et elle s'oppose aux autres. Et elle est plus accueillante, elle est même plus démocratique. Dans une famille, il y a toujours une hiérarchie forte, en fait. Où cette communauté se dilue, et dans ce cas-là, c'est la démocratie elle-même qui se dilue complètement, ce qui fait qu'il n'y aura sans doute jamais de démocratie mondiale, si vous voulez, même si c'est une exigence absolue, même s'il faut étendre.
D'où l'importance du concept d'hospitalité pour Derrida. Mmh, mmh.
Concept d'hospitalité qui vient... l'hospitalité, normalement, c'est simplement recevoir quelqu'un, je dirais même quelqu'un qu'on connaît. Alors, ce que dit Derrida, mais ça, il a avec lui toute une tradition sur l'hospitalité, qu'elle soit hébraïque ou qu'elle soit grecque. Une des choses qui sont quasiment les plus universelles qu'on peut retrouver partout, c'est que il y a toujours un devoir devant celui qui arrive et qu'on n'avait absolument pas prévu. Celui qui frappe à la porte et on ne sait absolument pas qui c'est. Hein, dans quasiment toutes les sociétés, il y a ces contes où, comme ça, celui qui frappe à la porte, on lui... ferme la porte au nez, et en fait, manque de chance, c'était un dieu, et après, et après il se venge. Bon. Et on ne peut pas savoir si celui qui arrive, finalement, est quelqu'un de respectable, qui sait d'où il vient, etc. Et même commencer à lui demander ses papiers, son identité, c'est déjà faire obstacle à l'hospitalité. La véritable hospitalité consiste à accueillir celui qu'on n'a pas encore identifié. À tel point que c'est vrai aussi de l'événement. Derrida parle d'une hospitalité à l'événement, que l'on n'a pas justement si on est simplement dans l'apocalypse où on s'attend au pire. Que l'on n'a pas non plus si on dit, comme Fukuyama, il n'y a pas d'alternative. La démocratie libérale, bon ben voilà, évidemment, ça crée des injustices, il y a des gens qui... les richesses sont mal réparties, mais on ne peut pas trouver mieux, bon, il n'y a pas d'alternative. Ça veut dire que, voilà, en effet, c'est la fin de l'histoire, il n'y a plus rien à attendre, donc aucune hospitalité à l'événement. À partir du moment où il n'y a pas d'hospitalité à l'événement, d'une manière générale, il n'y a pas d'hospitalité. Ça se tient, c'est-à-dire qu'une communauté ou un individu qui ne s'attend plus à rien ne risque pas d'accueillir qui que ce soit.
Est-ce que l'événement parfois peut être un peu contraignant ou effectivement mesurer le degré d'hospitalité de celui qui doit accueillir ou non, écouter l'objection que Michel Rocard fait à cette notion d'hospitalité.
Les réfugiés, c'est pas une quantité statistique, c'est des hommes et des femmes qui vivent à Vénissieux, au Minguette, à Villeurbanne, à Chanteloup. Et là, il se passe des choses quand ils sont trop nombreux et qu'on se comprend mal entre communautés. C'est pourquoi je pense que nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde, que la France doit rester ce qu'elle est, une terre d'asile politique. Nous sommes signataires de la Convention de Genève qui prévoit de donner accueil à tous ceux dont les libertés d'expression ou dont les opinions sont réprimées sur place, mais pas plus. Il faut savoir qu'en 1988, nous avons refoulé à nos frontières 66 000 personnes. Cette politique est dure, mais nous devons le faire pour maintenir la cohésion de la société française et pour pouvoir insérer dans des conditions décentes ceux des immigrés qui sont chez nous en situation régulière.
J'essaie de définir à la fin de l'autre cap une série de devoirs apparemment contradictoires, de devoirs aporétiques. Il faut à la fois accueillir l'étranger et si l'Europe est ce qu'elle est actuellement en fait, c'est-à-dire un lieu où partout le droit d'asile est refusé ou restreint, évidemment, ce sera une catastrophe. Il faudrait que l'Europe fût une association d'États capable justement de protéger le droit d'asile. Alors ce droit d'asile, on peut l'entendre de deux façons. Ou bien accueillir l'étranger pour l'assimiler, l'accueillir à la condition qu'il nous ressemble, qu'il devienne, que le travailleur immigré en France devienne français, accepte les lois françaises, accepte la culture française, ou bien l'accueillir en acceptant sa différence. Et je dirais que les deux éthiques ont une égale valeur. Je ne crois pas qu'on puisse simplement choisir entre les deux possibilités. Il faut traverser cette contradiction et essayer d'inventer un asile, un droit d'asile, en tout cas un accueil, une hospitalité, qui, tout en créant les conditions de l'intégration, ne détruisent pas la différence de l'autre. C'est difficile, c'est à inventer chaque fois, mais si on n'invente pas cette singulière hospitalité, n'est-ce pas, qui accueille sans assimiler, il n'y aura pas de véritable hospitalité.
Nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde. La phrase de Michel Rocard, restée célèbre, a été prononcée en décembre 1989. La voix de Derrida qu'on vient d'entendre, c'était en 1992. Avez-vous remarqué, Jérôme Lèbre, à quel point l'expression qui revient le plus dans la bouche de Derrida dans cet extrait, c'est « il faut ». C'est un Derrida très moral, soudain, qui apparaît.
Oui, c'est un Derrida éthique. Et pour Derrida, l'éthique et la politique s'articulent rigoureusement. L'éthique fixe des devoirs, qui sont quelquefois des devoirs absolus ou impossibles. Comment, par exemple, arriver à pardonner à quelqu'un sans créer en lui de la culpabilité? À chaque fois qu'on dit à quelqu'un qu'on le pardonne, forcément, en même temps, on est en train de condamner son action. Comment arriver à donner quelque chose à quelqu'un sans qu'il ressente immédiatement une dette et le devoir lui-même de donner? Eh bien, en fait, c'est ça l'éthique, hein, arriver à, même si c'est impossible, à tenter l'impossible, ou du moins à se le donner comme devoir. Même pas comme horizon, mais vraiment comme devoir constant. Arriver à donner sans créer la moindre dette chez l'autre, à pardonner sans créer la moindre dette, et arriver à accueillir sans avoir à identifier l'autre et à s'assurer même qu'il n'est pas dangereux, parce que vous disiez, il est gênant, l'autre peut même être dangereux. Hein. Et donc, comme disait Lévinas aussi, l'autre excède toujours les capacités du moi. Hein, l'autre, l'autre est toujours très difficile à accueillir, peut-être même impossible à accueillir. Et voilà, ça c'est un devoir éthique. Alors en fait, en écoutant ce témoignage là de aussi de ce texte de enfin ce discours de Rocard qui est extrêmement célèbre. Bon, on sait que il est célèbre aussi dans sa version tronquée, c'est-à-dire on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, ce qui semble vouloir dire si on en reste là, bon, il faut en accueillir aucune. Bon, et Rocard précise, mais la France doit accueillir sa part. Bon. On a l'impression, voilà, c'est le discours du politique réaliste, à la fois exigeant d'un point de vue du point de vue de la justice et réaliste. Bon, ce qui était en effet Rocard. Et on a l'impression qu'à côté de ça, le philosophe est celui qui va dire oui, mais bon, même si on est réaliste, on a quand même des devoirs absolus. Bon,
c'est vrai.
Si on en reste là, on est en dialogue entre le politique et le philosophe, mais ça n'avance pas vraiment. On se retrouve, comme Chevènement avait dit à Derrida aussi, bon, c'est angélique. Hein, au moment où il avait resserré lui-même les lois sur l'hébergement, bon, c'est très bien Derrida, mais c'est angélique. Bon. Mais je pensais à autre chose en entendant Rocard. Je pensais à ce qu'avait dit Jospin à un moment dans un autre domaine, qui était celui de l'emploi, où il avait dit comme ça, l'État ne peut pas tout. Et alors là, comme par hasard, toute la classe politique lui avait dit, mais c'est insupportable, comment peut-il dire des choses pareilles? On peut pas comme ça se dire complètement démissionnaire. Bien sûr, l'État doit absolument s'assurer d'apporter un emploi à tous. Voilà. Donc comme quoi les politiques, dans certains domaines comme dans celui de l'emploi, sont tout à fait capables de comprendre ce que c'est qu'un devoir inconditionnel. Mmh. En effet, l'État devrait apporter du bien-vivre ou même un emploi à tout le monde.
Mais la question de l'inconditionnel, que ce soit en politique ou en philosophie, même si j'ai bien compris qu'il ne faut pas séparer les deux de manière schématique, puisque la pensée philosophique a une dimension politique et la politique sans aucune philosophie peut-être serait moins efficace, comment est-ce qu'on peut concilier la réflexion ou l'action politique avec la notion d'inconditionnel ? Vous parliez de l'éthique et vous citiez Lévinas. Cette dimension inconditionnelle de l'hospitalité, c'est Derrida qui emploie cette expression. Ce devoir, cette notion d'absolu, ce sont des choses, ce sont des directions à suivre, mais c'est inapplicable. C'est difficile de pas taxer d'angélisme ou d'irénisme, c'est des discours qui parlent d'inconditionnel. La politique, c'est l'inverse, c'est toujours conditionné par le réel.
Alors pour éviter cet angélisme, Lévinas lui-même avait décidé de forme de rupture entre éthique et politique. Que l'éthique était justement dans notre relation à l'autre. Alors avec un tiers qui implique que dans cette relation à l'autre, il y a toujours une exigence de justice, y compris institutionnelle. Mais globalement, Lévinas avait cette idée que la politique, c'était tout le contraire de l'éthique, parce qu'elle n'était jamais confrontée au visage de l'autre, mais et du coup pouvait exercer d'une manière aveugle et non éthique son pouvoir. Et Derrida, lui, ne veut pas lâcher justement ce lien-là. Il y a écart entre éthique et politique, mais la politique reste soumise à un devoir éthique sans laquelle elle serait pure application du pouvoir. Dans le domaine de l'immigration, pure application du pouvoir, c'est le principe de l'immigration choisie, c'est-à-dire choisir les immigrés qui nous arrangent pour la croissance de notre pays, trier, en fonction d'un simple intérêt national. Bon, mais ça, c'est absolument pas éthique. Et en fait, la politique ne peut pas se passer de l'inconditionnalité, sinon tout simplement, elle a plus de sens, elle a plus de justification. Et c'est de ce point de vue-là que alors le philosophe, mais pas seulement, je dirais l'intellectuel de manière générale, ou même aussi le citoyen, est toujours là à demander son inconditionnalité. Et c'est pas de l'angélisme, c'est de dire tu dois donc tu peux. Même ce qui semble immédiatement impossible doit rester comme horizon de toutes les lois. Donc évidemment, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. C'est vrai, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle le doit. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on refoule quelqu'un, on doit savoir qu'on a tort. On doit savoir qu'on a une responsabilité. On n'est pas obligé d'en faire une culpabilité qui nous torture. Ça ne sert pas à grand-chose, la culpabilité comme ça. Mais en revanche, la responsabilité, oui. On doit se sentir responsable de chaque personne qui est renvoyé en dehors de nos frontières.
D'autant que la notion même de sans-papiers, pour Derrida, est très importante. Lui qui adorait accumuler les papiers, les archives, les traces, qui a beaucoup écrit sur le sujet, et qui même dans la vie, il disait qu'il gardait absolument tout, qu'il était incapable de jeter. Accueillir un sans-papiers, c'est deux choses. C'est à la fois accueillir quelqu'un sans identité, sans nation, sans patrie, mais c'est aussi accueillir quelqu'un peu importe qui il est, c'est-à-dire sans identité, mais cette fois au sens fort du terme. On ne choisit pas en fonction de l'identité. La notion de sans-papiers, pour Derrida, est quelque chose de très fort.
Et oui, bien sûr. Oui. En fait, oui, sans-papiers, ça veut dire sans, finalement, ces quelques papiers, voire ce papier qui donne l'identité nationale, administrative à quelqu'un. Et en même temps, celui qui est sans papier a avec lui tous ses souvenirs, toutes ses propres archives, ses écritures, ses propres papiers. Il écrit aussi, il sait toujours écrire. C'est juste un individu à qui il manque ce papier qui est celui de l'identification administrative. Et c'est toute l'ambiguïté de l'écriture, c'est que elle peut, quand elle est purement être institutionnelle, être un outil de violence et de discrimination. Et qu'en même temps, L'écriture, c'est ce qui nous constitue, chacun d'entre nous, et c'est pour ça que justement Derrida ne jetait rien. Il était constitué par l'intégralité de ses documents. Alors non seulement ce qu'il avait écrit, mais aussi ce qu'il avait reçu. Ce qui fait que tout ça, bien sûr, était là, s'accumulait. Bon, bien sûr, mais ça fait partie. C'est ça aussi l'hospitalité, y compris vis-à-vis des pensées des autres. Et alors, l'idée de Derrida, c'est pas de condamner le fait que l'écriture soit aussi administrative, puisqu'au contraire, tous ceux qui luttent avec les sans-papiers luttent pour qu'ils aient des papiers. Et donc, c'est indispensable en même temps la citoyenneté. Derrida avait souffert lui-même, je crois que vous en avez parlé dans une autre émission, du fait qu'au cours de la guerre, quand il était adolescent, en fait, il a perdu avec les Juifs d'Algérie sa citoyenneté française. Donc les papiers sont absolument indispensables, mais il y a toujours ce risque qu'en même temps, l'écriture administrative devienne une forme de violence.
Alors, vous avez beaucoup parlé de justice depuis le début de cette émission, que la justice n'était pas forcément synonyme de droit, ou plutôt qu'un droit pouvait ne pas être compatible avec l'idée même de justice. Vous avez même écrit un ouvrage qui s'appelle Derrida, la justice sans condition. On retrouve cette importance de l'inconditionnel. Il y a une phrase que prononce Derrida qui est très surprenante, où il affirme que la déconstruction, c'est la justice. Là, on a l'impression de marcher sur la tête comme un concept qui est si difficile à définir. Et on disait hier avec François Cusset qu'en fait, peu importe la définition, ce qui est important, c'est les effets produits par la déconstruction, que ce n'est pas une méthode, que c'est peut-être ce que ça provoque qui est intéressant. Et qu'au fond, la définir serait secondaire. Comment est-ce que la déconstruction de cette notion, c'est à la fois si vague et si pragmatique, peut-elle être synonyme de justice, qui est pour le coup un concept facile à définir, mais dont on ne fait jamais l'expérience. C'est un concept, c'est abstrait.
Alors, la justice, c'est un concept. Je dirais, c'est une idée. Alors, ce qu'il y a de très étrange avec la justice, c'est que, en quelque sorte, on sait tous ce que c'est. On sait tous distinguer le juste de l'injuste. Mais justement, quand il s'agit de la définir, là, ça devient d'un seul coup bien plus compliqué. Et la déconstruction, ça doit être un petit peu ça aussi. C'est-à-dire qu'elle dit que partout, il y a de la différence, de l'écart, qu'on ne peut rien fusionner, rien identifier. Ça, c'est compréhensible. Mais arriver après à la définir d'une manière plus complète, plus rigoureuse, la seule chose dont on se rend compte, c'est qu'il y a de la déconstruction partout. De même qu'il y a partout une exigence de justice. Alors, faut remettre cette phrase aussi dans son contexte pour mieux la comprendre.
C'était une conférence, c'est ça?
C'était une conférence, en fait, où Derrida parlait à des juristes. Il parlait de la déconstruction du droit. Et la première chose concernant le droit, c'est que, bon, évidemment, le droit est indispensable au fonctionnement d'un État, du moins un État qui en est vraiment un, c'est-à-dire un État de droit, donc aussi une démocratie. Mais le problème, c'est que justement, le droit ne peut pas se passer de la force. Et que, dans son application de la force, il risque toujours d'être injuste. Comme il peut l'être, on l'a vu avec des sans-papiers. Injuste, je ne peux pas faire grand-chose pour quelqu'un qui n'a pas de papier. Sinon, appliquer un droit qui fait qu'il n'a pas le droit des citoyens. Sachant très bien que pourtant, c'est une personne humaine qui en elle-même vaut autant qu'un citoyen.
Ou elle est contre la loi qui m'interdit d'accueillir un citoyen sans-papiers.
Oui, bien sûr. Oui. Donc en fait, le droit, quoique cette loi, ça peut-être pas aussi nécessaire que l'autre, mais le droit est toujours en même temps absolument indispensable. C'est en fait la justice de l'État, mais le droit en même temps crée de l'injustice en permanence. Il en crée nécessairement. Ne serait-ce aussi parce qu'il est toujours dans une langue. Alors le fait qu'il soit dans une langue fait que ceux qui comprennent mal la langue ou qui peuvent pas se défendre dans cette langue sont immédiatement désavantagés. Même s'ils prennent un avocat, ils le comprennent pas, ils comprennent pas leur propre avocat, etc. Bon.
Là, c'est la langue qui crée de l'injustice. Comment le droit crée-t-il de l'injustice?
Parce que tout droit est dans une langue.
Donc c'est la langue qui crée l'injustice plus que le droit. C'est la formulation du droit.
C'est le fait que langue et droit renvoient sans arrêt l'un à l'autre et que le droit a besoin de se dire dans la langue. Et c'est indispensable. S'il se disait pas dans la langue, s'il n'était pas écrit, ce serait pas un droit non plus. Bon. Et donc on se rend compte de toute cette insuffisance du droit, le fait aussi que la loi ne colle jamais exactement au cas particulier. C'est un vieux problème qui fait que le droit se déconstruit tout seul. Et c'est ça la déconstruction, le fait qu'on puisse pas avoir un concept solide, unitaire du droit. Alors même que c'est à chaque fois l'institutionnalisation de la justice. Et en fait, c'est ce défaut du droit qui fait la différence entre droit et justice, qui fait qu'aucun droit n'est véritablement juste. Et c'est donc dans ce contexte que Derrida dit, bon, voilà, une fois qu'on déconstruit le droit, c'est-à-dire qu'on ne dit pas simplement qu'il faut le suivre, mais qu'il faut aussi en faire une sorte de critique radicale de toutes ces insuffisances, de toutes ces contradictions, de tous ces effets de pouvoir, etc. Quand on déconstruit le droit, c'est là qu'on atteint la justice. Et ça ne veut pas dire que le philosophe va proposer un autre système de droit. Ça veut dire que le philosophe est toujours là justement pour montrer qu'il y a dans le droit des formes d'injustice et rappeler l'exigence de justice qui est interne au droit.
En cela, il est fidèle à Marx, par exemple, qui montrait que le contrat de travail était le lieu d'une injustice qui avait un statut juridique.
Oui, exactement. Il est fidèle à cette tradition qui fait que la philosophie et le droit ne cessent de s'échanger leurs concepts et leurs objectifs, et que la philosophie ne cesse d'être philosophie du droit, critique du droit, que le lien est absolument essentiel entre les deux, ce qui pour d'ailleurs Derrida se renverse. Il y a une philosophie du droit, mais il y a aussi un droit à la philosophie, ce qui en fait le droit pour chacun de philosopher, c'est-à-dire de s'inscrire dans cette critique du pouvoir, du droit, de la démocratie. Ce que dit aussi Derrida, c'est une de ses définitions de la démocratie, c'est l'endroit où on a le droit de tout critiquer, y compris la démocratie. C'est-à-dire de montrer qu'elle a aussi ses insuffisances, qu'elle pourrait être plus juste.
Alors cette alliance concrète, réelle, mais sans parti, qui se ferait au nom de la justice, Derrida lui donne un nom, et c'est la Nouvelle Internationale. Écoutez le récit de cette Nouvelle Internationale qu'on trouve toujours dans les spectres de Marx.
La Nouvelle Internationale, ce n'est pas seulement ce qui cherche un nouveau droit international à travers ses crimes. C'est un lien d'affinité, de souffrance et d'espérance. Un lien encore discret, presque secret, comme autour de 1848, mais de plus en plus visible. On en a plus d'insignes. C'est un lien intempestif et sans statut, sans titre et sans nom, à peine public, même s'il n'est pas clandestin, sans contrat, out of joint, sans coordination, sans parti, sans patrie, sans communauté nationale, internationale avant, à travers et au-delà de toute détermination nationale, sans co-citoyenneté, sans appartenance commune à une classe. Ce qui s'appelle ici, sous le nom de Nouvelle Internationale, c'est ce qui rappelle à l'amitié d'une alliance sans institution, entre ceux qui, même s'ils ne croient plus désormais ou n'ont jamais cru à l'international socialiste marxiste, à la dictature du prolétariat, au rôle messiano-eschatologique de l'union universelle des prolétaires de tous les pays, continuent à s'inspirer de l'un au moins des esprits de Marx ou du marxisme, ils savent désormais qu'il y en a plus d'un, et pour s'allier sur un nouveau mode concret, réel, même si cette alliance ne prend plus la forme du parti ou de l'internationale ouvrière, mais celle d'une sorte de contre-conjuration dans la critique théorique et pratique de l'état du droit international, des concepts d'état et de nation, etc., pour renouveler cette critique et surtout pour la radicaliser.
S'allier sur un mode nouveau, concret, réel, qu'est-ce que ce mode de nouveau, concret, réel, Jérôme Lavon? On écoute le texte, alors bon, c'est la plume de Derrida, on entend des mots un peu barbares, messiano-eschatologiques, ça peut être un peu effrayant. On a l'idée, si je le comprends bien quand même, de l'importance de la critique. Il faut maintenir la critique, il faut critiquer le droit,
c'est ça? C'est ça l'alliance sans institution. L'alliance sans institution, c'est celle de tous ceux qui gardent un regard critique. Sur leur communauté, sur l'État, sur la démocratie, mais un regard critique qui veut aller de l'avant et du côté de la justice, pas du côté de l'enfermement ou de l'assurance d'une identité, d'une nation, etc. Mais au contraire, du côté de l'ouverture, de l'hospitalité. Bon, mais alors une fois qu'on a dit ça, alliance sans institution, on a l'impression qu'on est guère plus avancé. Sauf que à partir de cette alliance, il y a la possibilité de créer quantité de petites institutions. Et de ce point de vue-là, Derrida a été très actif. Il a fait partie du Parlement des écrivains qui a créé ces quantités de villes-refuges pour les écrivains qui étaient persécutés dans le monde. le Collège international de philosophie. Il a été très actif dans sa critique, je dirais constante, des effets très négatifs des institutions étatiques contre la peine de mort. Il l'a fait avec d'autres, avec des associations qui sont donc aussi toujours des institutions. C'est pas du tout un discours anti-institutionnel. C'est l'idée que, à partir de cette alliance non instituée, eh bien, fusent quantité de modes d'action qui sont de l'ordre de la critique radicale, des formes d'injustice, et toujours au nom de l'hospitalité, en fait. Toujours au nom de l'accueil, de ce qui, a priori, ne fait pas partie, justement, d'une communauté déjà établie.
Mais est-ce que ça veut dire que la notion même de droit s'oppose à l'hospitalité?
Non, il y a un droit de l'hospitalité, un droit des étrangers qui est inscrit dans tout état de droit, qui d'ailleurs date de l'Antiquité. À Athènes, il y avait un droit des étrangers, même si ces étrangers n'étaient pas les égaux des citoyens athéniens. Donc le droit ne s'oppose pas à l'hospitalité tant que justement il est dans cet horizon de justice. Simplement, il est toujours limité par rapport à ce devoir absolu d'hospitalité qui dépasse le droit. Aucun droit n'est absolument juste.
Merci beaucoup Jérôme Lèbre, en tout cas d'être venu nous parler de Derrida politique aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs, plaisir partagé, à votre livre Derrida, la justice sans condition, aux éditions Michalon. Et on se quitte avec une chanson sur l'hospitalité, Harlem Hospitality.
Lenox Avenue, that's the one and only place to travel to. Music in the air, dancing everywhere, that's Harlem hospitality. When you hear a welcome to your song, you keep shouting hallelujah all night long. You never rest when you get the best of Harlem hospitality. It's a waste of life till you hear a song I love that uses, yeah, man, it's a taste of life.
Shim, sham, shimmy with the black and tan.
You don't need to eat an apple every day. Hidey ho, we need the doctor far away. You can't get ill when you get the thrill of Harlem hospitality.
Et c'est Cab Calloway qui nous conduit vers le journal de la philo, présenté comme tous les jours sur France Culture par Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Oui. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Comme tous les jours, vous nous parlez de philosophie en lien avec l'actualité éditoriale, je crois, aujourd'hui.
Oui, actualité éditoriale, avec cette question, à quoi ressemble votre bibliothèque idéale? Alors, ça peut être une question que...
Je sais.
Ah, vous savez déjà.
Ouais, elle ressemble à la grotte de Gaston Lagaffe qui lit entourée de tous ses livres dans sa petite bulle. C'est ma bibliothèque idéale.
Vous nous direz à la fin ce qu'elle contient aussi. Okay. Donc, à quoi précisément ressemble cette bibliothèque idéale du savoir? Cette question, bien oui, je me la suis posée aussi hier quand j'ai reçu 10 livres de la collection Champs Flammarion. Et oui, car la collection fête ses 40 ans et pour l'occasion, elle republie 10 de ses ouvrages classiques. Jean Kelevitch, Einstein, Durkheim, Georges Duby ou encore Fernand Braudel, entre autres, et sur chacun de ces ouvrages, on peut lire ce bandeau « La bibliothèque idéale du savoir ». D'où ma question donc, à quoi ressemble une bibliothèque idéale? Une bibliothèque idéale rassemble-t-elle tous les livres ou doit-elle seulement sélectionner les meilleurs? Et alors sur quels critères? Des critères de goût, de succès, de reconnaissance de l'auteur ou encore de format?
Vous êtes étudiant en médecine?
Oui, je suis étudiant en médecine en première année.
Est-ce que vos études vous laissent le temps de lire?
Oui, je lis quand même encore 2 ou 3 heures par jour.
C'est beaucoup. Vous lisez combien de livres par semaine?
5 ou 6 livres par semaine. Et depuis l'âge de 8 ans, 9 ans, enfin. Mais j'ai eu la chance de trouver une bibliothèque chez moi.
Vous croyez donc appartenir à une aristocratie des lecteurs?
Oui, bien sûr. Enfin, bien sûr, je ne sais pas si j'y appartiens. Je suis persuadé qu'il faut une aristocratie des lecteurs.
Que pensez-vous du livre de poche?
Beaucoup de mal.
Pourquoi?
Parce que ça a fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire, finalement, qui n'avaient jamais ressenti le besoin de lire, On les a amenés là, on leur a envoyé des invités, nous deux, ou la vie en fleurs. Et d'un seul coup, ils se sont retrouvés avec Sartre dans les mains. Ce qui leur a donné une espèce de prétention intellectuelle qu'ils n'avaient pas.
Ah, les snobs ne nous déçoivent jamais, Géraldine.
Ah non, on ne se lasse pas de cette archive de 64 alors que le livre de poche débarquait tout juste sur le marché. Et ce jeune étudiant en médecine qui prône une aristocratie des lecteurs dit quand même bien une chose. Une bibliothèque idéale n'est pas forcément une bibliothèque universelle. Borges s'y était heurté avec la bibliothèque de Babel. Le projet d'une bibliothèque aux combinaisons infinies et ouvertes à tous a le goût d'utopie. Elle reste précisément idéale, impossible à réaliser. Alors comment faire ? Comment malgré tout, à défaut d'universalité, constituer une bibliothèque idéale pour soi ? Qu'est-ce qui en chacun peut justifier que tel ou tel livre fasse partie de sa bibliothèque idéale et pas un autre livre et pas pour une autre personne ? C'est justement la question que la collection Champ Flammarion pour son anniversaire a posée à plusieurs chercheurs contemporains et qui ouvre chacune des rééditions de ses 10 ouvrages. Pourquoi ce livre ? Pourquoi, par exemple, La Méditerranée de Fernand Braudel a-t-il marqué François Hartog ? Comment Étienne Klein a-t-il lu Comment je vois le monde d'Einstein ? Ou encore, quel souvenir Frédéric Worms garde-t-il du tout premier livre publié dans cette collection Champ Flammarion, La mort de Jean Kélévitch ?
Il y a des problèmes qui auparavant n'étaient pas philosophiques. Je ne sais pas pourquoi. Des problèmes qui n'avaient pas le droit de citer. Que les professeurs de philosophie, les programmes n'admettaient pas. La mort, par exemple. La mort, c'était pour les prêtres, au lit de mort. Alors il arrivait avec la Bible, n'est-ce pas ? Il lisait les prières. La mort, c'est un problème religieux. Et inexplicablement, la mort n'était pas un problème philosophique. Je vous demande un peu pourquoi. Pourquoi c'est pas philosophique ? Mais c'est la philosophie elle-même. Et le temps est bien un problème philosophique. Et maintenant, on considère que la mort est un problème philosophique. Et ça a commencé avec Schopenhauer. Vous saviez ça ? Schopenhauer est le premier, dans les quelques pages géniales, des compléments au principe que monde comme volonté et représentation. Vous voyez, je cite mes auteurs, c'est l'habitude du métier, c'est professionnel. Et il nous dit que l'homme est le seul être qui s'étonne d'exister. Ben, c'est très beau d'ailleurs.
Oui, c'est bien Vladimir Jean Kélévitch qui a ouvert le bal de cette collection en 1977 avec son essai « La mort ». Et quand Frédéric Worms présente ce livre, il rappelle bien l'idée qu'il a alors frappée lorsqu'il l'a découvert, l'apparition d'une méditation sur la mort, bien sûr, et du coup aussi sur la concrétude de la vie, sur le vivant, le vitalisme sur lequel il travaille aujourd'hui. Mais il rappelle aussi les raisons, beaucoup plus diffuses, de l'importance d'un livre pour chacun. L'effet qu'il a sur nous et sur les autres, un effet mystérieux, inexplicable, mais bien présent, comme Jean Kélévitch et son souvenir de lecture de Schopenhauer. Une bibliothèque idéale, c'est donc cela. C'est une bibliothèque d'idées où celles-ci ne flottent plus au-dessus de nous, mais sont contenues dans quelques pages à portée de main. Mais c'est aussi cette bibliothèque rêvée, dont les causes et les effets peuvent nous échapper.
C'est beau, Géraldine. Alors, quels sont les livres qui composent cette bibliothèque idéale de Jean Flammarion ?
Alors, il y en a 10, j'en ai cité quelques-uns. Il y a donc Vladimir Jean Kélévitch, La mort, présenté par Frédéric Worms. Il y a Étienne Klein qui présente Comment je vois le monde d'Einstein. Ou encore La Méditerranée de Fernand Braudel, présenté par François Hartog. Et on mettra les autres en ligne. Et vous, Adèle, votre bibliothèque idéale ?
Moi, j'y mets du Emerson, Camus, Pessoa, Shakespeare et Largo Winch.
Pas mal.
Bon, rendez-vous en ligne pour écouter votre chronique. Merci, Géraldine. Et merci à Claire Perriman-Holt qui a préparé cette émission, ainsi que Maud Markiewicz, David Pargamin, Marianne Chassor, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Yvan Moran qui est à lecture des textes, YouTube Diego Aclopès accompagné de Lucas Vaillant à la prise de son. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur Jacques Derrida. Demain, nous nous attaquerons au gros morceau le plus coriace, le vocabulaire de Derrida. Pourquoi écrivait-il la différence avec un A ? Qu'est-ce que l'archi-écriture, la télé-orgasmisation, l'antérection et le basiléo-patro-héliothéologique ? Réponse claire et précise, si, demain, grâce à l'excellent Charles Ramon. D'ici là, rendez-vous sur notre site pour réécouter l'émission, bien la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, ainsi que sur nos pages Facebook et Twitter, où nous attendons vos remarques et commentaires. Rendez-vous demain à 10h donc, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.